Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine du 9, 10, 11 août 2024. Ici Alex Baillargeon et bienvenue au 450e réchaud du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de CHIZ 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Si on a fracassé la 300e du deuxième service depuis Paris, depuis Orléans même, au début de l'été. On arrive à la fin de cette même été. Non, il reste encore un mois, mais avec la pluie qui tombe depuis hier, l'été est fini. Et c'est le magnifique chiffre rond de 450 réchauds qui est atteint cette semaine. Évidemment, en comptant les spéciaux de Noël, les émissions un peu plus longues, un nombre plus élevé. Mais 450 émissions régulières. Quoique, il y en a là-dedans qui ont duré plus d'une heure. Quand même important. Allons-y tout de suite. Partons avec les Jeux olympiques. On arrive au bout de cette Olympiade. Canada qui fait bonne figure. On se laissait la semaine dernière avec au jour 7 la victoire de Gabriela Dabrowski et de Félix Auger-Aliassime qui repartait avec la médaille de bronze pour le tennis en double et pour avoir un peu mélangé les compétitions puisqu'il restait un match à Félix Auger-Aliassime en solo, je veux dire en singulier, mais oui, ça se dit aussi. Malheureusement, ne l'a pas remporté, mais il concourait quand même pour la médaille de bronze. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Et en natation, Kyle Limas a ajouté également une médaille en remportant le bronze aux 200 mètres chez les femmes. On est allé fouiller dans les archives. J'ai envoyé la mère de Summer McIntosh aux Jeux de Barcelone. Mais c'était plutôt aux Jeux de 84. Où elle a elle-même nagé le 200 mètres papillon. Et que sa fille, quelques 40 ans plus tard, elle remportait la médaille d'or. Et pour l'avoir entendue en entrevue elle-même, elle disait qu'elle était particulièrement contente, ne serait-ce que parce que c'était la même compétition que sa mère. Mais qui plus est, gagner devant elle. Médaille d'argent. Le lendemain pour le 8 de pointe féminin en kayak. Les Canadiennes ont terminé au second rang. Derrière les Roumaines, devant les Britanniques. Donc, un ajout de médaille pour le kayak à 8. Ou, dans ce cas-ci, le 8 de pointe, de son nom complet. Les espoirs de médaille, je pense qu'on devrait abolir le tout. ça porte malheur à plusieurs d'entre eux. Notamment Shadi Alnaas, au judo, qui s'est fait mettre les épaules au sol. Le hippon, le fameux hippon très 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 qui fait en sorte que le match se termine et c'est victoire de l'adversaire. Ça a été terminé pour lui. André De Grasse n'a jamais réussi à se qualifier en temps solo. Il reste le relais à l'athlétisme, mais pour lui aussi, ça a été très difficile. Damien Warner, en décathlon, on attendait peut-être sur un podium, ne serait-ce que pour défendre son titre, mais dans son cas, lui, la perche n'était pas coopérative avec lui. Trois chances de franchir au minimum 460 mètres dans son cas, lui. Semble-t-il que le 460 mètres, c'était pas mal son record de saison. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait décidé de commencer avec une barre aussi élevée? La question s'est posée par la suite, mais pour lui, les trois échecs à cette barre parallèle ont été fatales dans son cas, ce qui a fait en sorte qu'il ne pouvait pas continuer le décathlon puisqu'il n'avait pas réussi à terminer cette étape-là. Et donc, plutôt que de lui attribuer on lui attribuait une note de zéro, mais ce qui faisait en sorte qu'il tombait à la fin du palmarès. Donc, il n'y avait de toute façon aucun moyen d'aller rechercher ces points-là nulle part. Donc, c'était terminé. C'était terminé pour son parcours dans son cas à lui. Première médaille en natation au 100 mètres papillon remportée par un athlète noir, Josh Liendo. Et le suivait de très très près, Ilya Karoun au 100 mètres papillon également pour la médaille de bronze. Donc c'était un doublé canadien pour la discipline papillon. Du côté athlétisme, on a eu des petites difficultés aussi. On arrive en boxe. Wyatt Sanford qui s'est incliné par contre en demi-finale pour la médaille d'or, mais qui remporte la médaille de bronze. Donc c'est un médaillé tout de même. Très satisfait évidemment de sa performance. Du moins pour réussir à remporter la dernière médaille. Novak Djokovic, peut-être pas canadien, mais il est enfin champion olympique. C'était pas sa première compétition de tennis aux Jeux olympiques. Justement, il affrontait Carlos Alcaraz, qui avait, lui, défait Félix Auger-Aliassime. Donc, on est passé à ça, d'avoir un match Djokovic-Auger-Aliassime. Mais dans toutes les médailles, dans tous les circuits, pour Djokovic, c'était la seule médaille, dans ce cas-ci, médaille, qu'il n'avait pas remportée avant de, peut-être tranquillement, pas vite s'en aller vers sa retraite. Mais donc c'était la dernière récompense qui manquait à son tableau de chasse, une médaille en or dans le cas de Djokovic. Surprise! Médaille qu'on n'attendait pas et que lui-même probablement n'attendait pas en plaçant la barre extrêmement haute. C'était au lancer du marteau Ethan Katzberg de la Colombie-Britannique qui a remporté une toute première médaille. Dans son cas, lui, c'est sa première médaille. Je me souviens plus, c'était sa compétition à lui, mais ça, il faut revenir aux années 20 pour une dernière médaille du lancer du poids pour le Canada. Fait que ça faisait un énorme hiatus. Sinon, c'est l'équivalent féminin, mais en tout cas, il y avait une médaille comme ça qui n'avait pas été gagnée depuis extrêmement longtemps. 22 ans, Colombie-Britannique, qui a tiré à un peu plus de 80... il était à 84,12, si je me fie aux commentaires qu'il y avait là, 84,12 au premier lancer qu'il a fait. On entendait les commentateurs d'ailleurs qui disaient habituellement on s'échauffe, on fait monter tranquillement pas vite les enchères et lui est allé directement pour la médaille d'or à son premier lancer. Fait que c'en était joué comme le commentateur disait, c'est une douche froide qui vient d'être servie à tous les autres. À tous les autres compétiteurs parce qu'aucun d'entre eux n'a été capable de pouvoir ne serait-ce qu'approcher le 84 mètres. Et semble-t-il également que pour les compétitions précédentes de qualification, il avait réussi lui aussi à franchir la barre du 80 mètres de loin. C'est lancer un poids 80 mètres plus loin. Il était le seul à l'avoir fait, les autres, et même le détenteur de la précédente médaille d'or n'avait jamais été capable de dépasser la barre du 80. Et ça a été le cas tout au long des autres tirs, des autres athlètes, ça en était fait. C'était lui qui repartait avec la médaille d'or pour le Canada. Comme je le disais, il y a eu une surprise au lancer du poids, puisque quelques jours plus tard, si c'est même le lendemain... Ah, voilà. Cameron Rogers, elle, remportait également la médaille d'or pour le lancer du marteau. Une première depuis 1912. Et c'était une première canadienne également depuis la même époque ou un peu plus loin dans l'historique. Et la compétition masculine et la compétition féminine se voyaient donner la médaille d'or pour le Canada. Donc, il n'y avait jamais eu de doublé en or du Canada depuis au-dessus de 100 ans. Justement, dans ce cas-ci, ça a été réalisé grâce au lancer du marteau à Cameron Rogers. Et Ethan Katzberg pour leurs médailles respectives en or en athlétisme de gazon, qu'on appelle. Et ça, c'était quand même particulier, puisque à une autre époque, on performait énormément en course, André Degrasse, pour ne pas le nommer, on performait en course, donc en athlétisme de piste, où justement, il y avait des médailles qui étaient remportées à profusion pour la course. Tandis que cette année, l'édition de cette année en athlétisme, on finit quatrième, on finit cinquième, où on ne se qualifie pas passer la demi-finale, littéralement. Quoique, il en reste quelques-uns et il va rester également le relais où justement André Degrasse pourra peut-être être tenté de se racheter, ça serait méchant de dire ça comme ça, mais de pouvoir performer. Ce serait un terme plus approprié avec les autres coureurs canadiens. Quoique, il y en a quelques-uns qui ont réussi à se qualifier finalement pour des finales, mais comme on a eu c'était aux 5000 mètres, me semble, il y en a un là-dedans qui s'était enfargé dans une des haies. Je pense que c'était aux 5000 mètres haies, justement. Il y en avait un qui s'était enfargé dans une des barrières et qui avait terminé malheureusement 13e position. Donc voilà, il y a eu beaucoup de déceptions au travers de tout ça, mais ne serait-ce qu'il y avait également de belles surprises de justement plusieurs médailles qui n'étaient peut-être pas nécessairement attendues. Toujours dans les anecdotes, Armand Duplantis, qui est athlète suédois, a battu son propre score à la perche en faisant 6 mètres 25. Qui est une affaire de j'allais y aller en pied, mais finalement, j'ai pas le chiffre en tête. Mais 6 mètres 25, qui était le record absolu détenu par lui-même à 6 mètres 24, puis 23, 22, 21, 20. Donc, il a établi à son troisième essai le 6,25 mètres de hauteur à la perche. Qui est quand même extrêmement particulier. Mais voilà, donc il a réussi à rehausser à nouveau son propre record pour voilà, la perche. Et du côté féminin, on obtient également une perche et une médaille de bronze avec l'Ontarienne, oui, Alisha Newman, qui remporte sa toute première médaille de bronze personnelle après ses troisièmes Jeux olympiques, sauf erreur. Donc, elle ne s'était pas qualifiée et à Rio et à Tokyo, mais maintenant à Paris, elle a pu repartir avec une médaille autour de son cou. Maud Charron, qui a dû changer de catégorie de poids puisque la sienne avait été abolie. Elle devait soit perdre 8 kilos ou n'en prendre 8 pour pouvoir retourner aux Jeux olympiques cette année. Elle a choisi l'option d'aller dans une catégorie plus élevée et ça a été payant. Dans son cas, elle est repartie avec la médaille d'argent. Ce qu'elle espérait le plus, parce que justement à Tokyo, malheureusement, personne n'était présent de sa famille pour elle, pour la médaille d'or, où elle est justement victoire. Elle est victorieuse jusqu'à preuve du contraire de cette catégorie-là qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, elle est techniquement l'ultime gagnante de sa précédente catégorie. Mais Voilà. Non, elle a perdu du poids, je me mélange. Donc, elle était à 64 kilos aux Jeux de Tokyo et elle est passée à 59 pour sa médaille d'argent. J'ai compris le reportage à l'envers, faut croire. Mais voilà, donc malgré ce changement de catégorie-là qu'elle a été obligée de faire parce que Paris ne voulait pas représenter la catégorie 59, bon, elle est 64 plutôt, elle est passée à 59, où elle devait monter, c'était à 72 de mémoire, mais quand même. Skyler Park remporte devant la Libanaise au taekwondo la médaille de bronze chez les moins de 57 kilos. Première médaille olympique pour la Manitobaine qui participait à ses deuxièmes Jeux. Voilà, en taekwondo, moins de 57 kilos dans son cas à elle. Et ce matin même, vendredi, au moment d'enregistrer, Cathy Vincent et Sloane McKenzie, je suis en doute d'une erreur de frappe de mettre, bon, moi qui s'appelle vraiment Sloane. Sloane McKenzie qui remporte au C2 500 mètres, donc en canoë-kayak à deux. Le 500 mètres, la médaille de bronze, une deuxième médaille de bronze pour Cathy Vincent qui, elle, avait terminé troisième à Tokyo. Et sauf erreur, c'est son ancienne collègue qui est maintenant la commentatrice du canoë-kayak. Du moins de mémoire, il me semble que c'est elle qu'on entendait. Mais voilà, donc les anciens compétiteurs maintenant reviennent, continuent à œuvrer dans le domaine olympiques et de toute façon peuvent un peu communier également avec les autres athlètes en étant passés par là eux aussi. Donc voilà pour ça. Marco Arap, voilà, qui était l'autre coureur canadien qui lui s'est qualifié aux 800 mètres vendredi matin pour la finale. S'est qualifié pour la finale après avoir dominé sa propre vague de demi-finale en terminant premier. Et vous saurez, Jean du samedi à 13h, s'il remporte, s'il réussit du moins à se qualifier pour une médaille, sait-on jamais. Peut-être en athlétisme de piste, nous retrouverons-nous enfin une première médaille. On sera quelques instants au retour, la suite du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. De retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Voilà, donc au tableau des médailles, en fait, Caravane, qu'on vient d'entendre. C'est un peu plus rock ce matin, Caravane, qu'on vient d'entendre en musique, faire plaisir aux cons avec Webster. Tableau des médailles, voilà, donc le Canada glisse au 11e rang, au cumulatif des médailles avec 22. L'Allemagne et les Pays-Bas ont fait une remontée dans les derniers jours. Et c'est la même chose au total des médailles d'or. Le Canada est également à la 11e place ex aequo avec la Nouvelle-Zélande qui, eux, sont à 14. Donc, on conserve la 11e place pour le Canada avec 22 médailles pour jusqu'à ce vendredi matin et où il y a eu une belle performance. Bon, en athlétisme, voilà, il y a quand même le lancer du marteau. Deux médailles d'or, ne serait-ce que seulement dans ces catégories-là, saut à la perche, comme je le disais. Mais c'est vraiment la natation où il y a eu une très belle performance. Mais c'est la natation en solo. Puisque c'est vrai, j'ai oublié la dernière médaille de Samuel McIntosh qui a remporté. C'était le 200 ou le 400 mètres nage individuel qui avait eu lieu vendredi dernier, également en soirée. Donc, elle repartait finalement avec 4 médailles, dont 3 en or pour elle seulement. Et voilà, et justement, ça a été relevé par plusieurs. Si en athlétisme de gazon, on performe davantage qu'en athlétisme de piste, en natation, si à une certaine époque, c'était les compétitions en équipe qui étaient les plus performantes pour nos athlètes canadiens, bien cette année, c'est littéralement l'inverse. Ce sont les compétitions individuelles où plusieurs ont performé et où plusieurs sont également passés près d'un podium. Le relais féminin, quatrième position. Il y a eu plusieurs autres compétitions comme ça où ça s'est terminé à la 4e position. Et ça, justement, le questionnement sera lancé, ne serait-ce également que parce que les athlètes féminines s'entraînent dans des villes séparées et non pas dans le même cadre. Donc peut-être que justement on parlait de cohésion et tout ça. On a tassé Penny Oleksiak de la finale féminine pour mettre Summer McIntosh parce qu'on avait beaucoup d'espoir en elle. Même si techniquement Penny Oleksiak avait, elle, fait un meilleur temps pour la même distance pour le relais. Il y a eu ce petit point d'interrogation-là. Est-ce que parce que, justement, les quatre médailles de Summer McIntosh ont un peu influencé, sait-on jamais? Il y a Karun, deux médailles de bronze, papillon, 100 mètres et 200, comme je le disais. Et Josh Liendo, lui, qui est allé chercher la médaille d'argent en natation. Voilà, le plongeon a lieu présentement. On termine la session avec le plongeon. Et bien, les jeux en... Non. Où normalement, on les aurait peut-être commencés, mais comme les piscines n'ont pas l'air d'être toutes disponibles en même temps, ou en tout cas celle du plongeon ne l'était pas avant cette semaine, on a attendu. Nathan Sasbaugh-Murray, qui a remporté la médaille de bronze au synchronisé, était de la compétition du plongeon en solo, plongeon simple. Donc, à voir pour les résultats plus tard. Voilà pour les Jeux olympiques. Bon, évidemment, il reste encore quelques heures, quelques compétitions à faire avant de terminer le tout. Notamment, le golf a présentement lieu. Le breaking, nouvelle compétition qui est maintenant aux Jeux olympiques. Donc, on pense au breakdance. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une compétition de breaking. Donc, c'est... comme dans les films, j'ai envie de dire, mais là, dans ce cas-ci, on a vraiment une plateforme ronde au milieu d'un amphithéâtre. On a deux compétiteurs de breaking qui font leur chorégraphie, qui font leur danse, qui font du break, et qui s'affrontent les uns face aux autres. Il y avait des images pour la compétition de vendredi matin que, bon, ça semblait être... Ça semblait être des amis qui étaient en duel l'une contre l'autre, puisque l'une terminait un mouvement et l'autre souriait et tout ça, parce qu'évidemment, ça reste quand même un milieu très, 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 très petit. Donc, on se connaît énormément. On peut penser également à la planche à roulettes où, d'ailleurs, le Canada présentait son athlète la plus jeune dans cette compétition-là. 14 ans seulement pour l'athlète canadienne. Malheureusement, elle ne s'est pas qualifiée pour la médaille. Mais justement, la moyenne d'âge pour la planche à roulettes est atrocement jeune. 14 ans, elle est née en 2010, cette athlète olympique-là, qui était à la planche à roulettes pour représenter le Canada. Donc, ne serait-ce que cette information-là est particulière, mais vraiment... toutes les compétitions de planche à roulettes étaient quand même assez impressionnantes. Les plus vieux ont 19-20 ans. Fait que déjà là, ça donne un peu l'idée. Tony Hawk était présent. On a pu le voir. Il a essayé lui-même le circuit avant de débuter les compétitions. Mais voilà, donc les planches à roulettes... Ah non, c'est les langues. Je comprenais pas ce que c'était. Dans le parc et parcours de rue, les deux compétitions qui avaient lieu. La planche à roulettes, c'était la finale. C'était mercredi où c'est l'athlète, ça c'est le masculin, c'est l'athlète australien, c'est vrai, qui a remporté la médaille d'or avec sa première course qui était à 93,11 de pointage. Dans son cas, c'est littéralement la meilleure note de toute cette même compétition-là, puisque l'Américain, à son deuxième tour, a réussi un 92,23. Et le Brésilien, Akio, est passé tout juste devant son compatriote Barros avec une note de 91,85 et son compatriote était à 91,65. Fait que par 0.2, c'est Akio du Brésil qui est reparti avec la médaille de bronze après avoir raté son premier passage avec seulement 2 points. Ça, c'était pour la compétition de parc masculin. Pour du côté féminin, à la finale, c'est l'Australienne également qui repart avec la médaille d'or, la compétitrice True. Du Japon, c'est Iraki qui repart avec la médaille d'argent et la compétitrice de la Colombie-Britannique, de la Grande-Bretagne qui repart avec la médaille de bronze, la compétitrice Brown avec 92,31. La médaille d'argent est à 92,63 de pointage. Donc, ça se joue à des millièmes. La course, faut en parler, la finale du sprint s'est jouée à 0-1 de différence entre la médaille d'or et la médaille d'argent. Le Jamaïcain qui remportait la médaille d'argent était d'ailleurs très, très fâché. Mais voilà, c'est ça, des millièmes de seconde, des centièmes de millièmes de seconde. Oui, centièmes de seconde. Les fractions sont loin ce matin. On sera quelques instants au retour. La suite du deuxième service, ici même sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3. Valence, qu'on vient d'entendre en musique, quand rien ne bouge, rien ne vit. Tiré de son plus récent album. On s'en va au cinéma cette semaine. On va aller voir notamment 1995 de Ricardo Troggi. Bonne annonce tout de suite. J'allais dire en musique, mais non, tout de suite sur les ondes.
Ce jour-là, ma vie allait enfin prendre un nouveau tournant.
Bienvenue à cette première de la course 8 Globetrotters qui vous invite à les suivre à la découverte du monde.
Ça va commencer vite, Pinto!
Tu m'appelleras quand c'est lui.
Laisse faire!
I'm Younes.
I'm Ricardo.
Why do you go to Egypt?
To make films?
I think I have a really good idea for your film.
Really?
Oh yeah.
Ça prenait de l'ouverture pour voyager comme je le faisais. Puis le fait que je l'ai rencontré dans un avion, ben ça me donne un genre de confiance. Que j'aurais dû rester couché. When I
wake up. Je cherchais un sujet de film.
Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une danseuse.
On est peut-être une comédienne qui accepterait de faire ça.
Hop là!
C'est quoi le sujet de ton prochain film?
Tout ce que je peux te dire, c'est que ça va être mon meilleur.
Là, c'est drôle, parce que juste au moment où je pensais que tout allait bien, ben devinez quoi?
Calisse, Younes!
You have a package for me? It's a camera.
Can I see your form, please?
What form?
C'est difficile d'être un artiste.
Ben, je peux au moins essayer.
Mais oui, tu peux essayer. Mais promets-moi, si ça fonctionne pas, tu t'acharnes pas.
Je trouve qu'il a effleuré son sujet.
Je ne connais rien.
Combien vous donnez?
Ricardo, c'était ton plus beau film!
Après 24 ans de questionnement sur ce que j'allais faire dans la vie, j'allais enfin être sur mon X. Mon ancienne vie allait être terminée. J'allais devenir Ricardo Troggi, le réalisateur.
Ricardo Troggi, ça vient d'où, ça?
Puis ça, ben, c'était mon premier meeting.
En 1994, alors qu'il était sur le point d'abandonner son rêve de devenir cinéaste, Ricardo est choisi pour participer à l'émission La Course, une compétition envoyant 8 globetrotters en herbe à la découverte du monde. Lorsqu'il débarque au Caire, en Égypte, toutes les conditions et les malchances sont malheureusement réunies pour donner du fil à retordre à Ricardo. À la recherche d'un sujet pour une vidéo qu'il doit livrer en un temps record, le jeune homme décide de sortir de sa zone de confort et de proposer cette fois-ci, un reportage sur un enjeu beaucoup plus sérieux et délicat. Inspiré de faits réels, comme il l'est très bien indiqué à la fin du film. 94, le quatrième film de la Trogilogie, comme il avait été amicalement appelé avec 80, 87 et 91. Bon, voilà, l'essentiel du film se passe en 1994, mais il y a une petite raison cachée à la fin du film pour justifier 1995, où justement Ricardo devenait Ricardo le réalisateur. La course, dans ce cas-ci, puisque la course Destination Monde, c'est un nom qui était déjà pris et qui devait peut-être coûter cher pour ne pas avoir été capable de le revoir, c'est les contemporains, c'est 94-95, fait que c'est des gens qu'on connaît. Sur le panel d'invités, il y a Michel Rossignol et il y a... évidemment, en voulant le dire, le nom me sort de l'esprit. Mais voilà, donc on est avec des contemporains, on est avec des gens qu'on connaît. On s'arrête parce que, justement, question budgétaire, on ne peut pas nécessairement aller se promener autour du monde pendant 6 mois comme Ricardo l'a fait originalement dans sa course Destination Monde, qui était à Radio-Canada à l'époque. Oui, Radio-Can, me semble. Voilà, donc il y avait évidemment pas... on s'arrête en Égypte dans ce cas-ci. On passe la majorité du film également en Égypte. Michel Coulombe, voilà le journaliste que je cherchais. Lui-même était un peu inquiet de savoir quel acteur allait reprendre sa propre personne quand il parlait du film. Et très ressemblant, le monsieur. Il pourrait jouer également Gabriel Arcand, mais ça, c'est un autre débat. Mais Michel Coulombe, c'était convaincant. Pour la parenthèse, pour avoir vu les 3 autres films quand même assez récemment, j'ai envie de dire que celui-ci, le 4e, est vraiment un peu à part. J'ai envie de dire que c'est peut-être le début d'une nouvelle trilogie. À ses propres dires, Ricardo pensait peut-être pas se rendre jusqu'à Québec-Montréal. Quoique, pour l'avoir entendu en entrevue, comme il disait, ça pourrait être intéressant d'avoir à faire le casting de jeune Pierre-François Legendre, de jeune Patrice Robitaille, jeune Julie Le Breton et tous les autres, jeune Benoît Gouin et tous les autres contemporains de Québec-Montréal pour faire 2001. Fait qu'il se posait la question, il n'était pas certain, parce que, en tout cas... à voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Il y avait la possibilité de peut-être faire 2000 à ces époques de publicité, donc davantage que d'essayer d'y aller dans le long métrage qui pourrait peut-être se terminer juste avant Québec-Montréal, fait que faire un 5e film, faire un chiffron avec 5 films. Donc voilà, le ton est un peu différent dans celui-là, justement parce que le Ricardo de 24 ans, oui, il fait bon des sketchs comiques, fait des reportages comiques dans les premiers, dans les premiers qu'il envoie à Montréal. Mais là, en Égypte, tombe sur un article à son hôtel dans un journal, sujet qui le touche particulièrement, ultra controversé en Égypte, peut pas nécessairement en parler comme il le voudrait à la base, comme il le faudrait. Justement, les commentaires, on l'entend dans la bande-annonce, ne sont pas particulièrement tendres dans ce cas-ci. Fait que c'est un ton qui est plus sérieux. Et j'ai envie de dire, justement, qu'on est moins dans la nostalgie que peut l'être un 81, un 87 de « Ah oui, quand on était des jeunes à Québec, les Bessiques, les Kiwis, le Perrette, tu sais, toutes les références aux années 80. » Un peu comme l'a été Stranger Things à une certaine époque, de faire comme « Ah oui, les années 80, les jeux vidéo, nanana. » Bon, ben cette nostalgie-là, elle est beaucoup moins présente en 94, ne serait-ce que on n'est pas... Ah oui, en 94, les pagettes, puis l'Internet lent, puis tu sais, on n'est pas du tout à faire des blagues de l'époque en tant que telle, quoique on a un Ricardo qui doit composer avec une caméra en VHS. Dans la bande-annonce également, doit trouver une nouvelle caméra VHS également parce que son ami Younes, rencontré dans l'avion, lui casse sa caméra. C'est dans la bande-annonce, je dévoile rien de l'intrigue. C'est une intrigue, mais c'est dans le film, c'est dans la bande-annonce. Et voilà, donc, est-ce que justement, parce qu'on est limité à un seul pays, on tourne en rond un peu beaucoup sur une affaire? Oui. Il y a un bon segment qui est quand même très, très long. Très, très long. Qui aurait pu être raccourci, mais qui est un hommage à d'autres choses, peut-être. Mais c'est très, très long. Fait que, on fait le tour un peu rapidement de tout ça. Tu sais, ça, c'est... Puis ça, c'est plusieurs l'ont dit également. On est parti comme d'une certaine anecdote. On l'a extrapolé sur une heure et demie, deux heures. Et on est arrivé avec le film. Est-ce que c'était la meilleure anecdote de tout le voyage? On ne le saura pas, malheureusement. T'sais, on a eu un reportage de la Belgique et on a eu l'aventure en Égypte. Quoi qu'on va en Tunisie à la fin, mais tu sais, on reste, on se déplace pas tant. Et techniquement, la course autour du monde, c'est ça, c'est 6 mois et c'est autour du monde. Fait que peut-être que ça aurait pu être le fun d'aller ailleurs, mais encore là, contrainte budgétaire, évidemment, ça nous oblige à rester dans un seul endroit. Plus sérieux, puis j'ai envie de dire, pour les fans. T'sais, c'est très méta, là, ceux qui aiment les films, mais qui aiment aussi voir la production d'un film, peuvent y trouver peut-être leur compte dans 95. Donc, plus sérieux, ne serait-ce que par le sujet, mais que justement, on est moins dans l'anecdotique, dans « Hey, on est en 94, on s'appelle au téléphone, toute la gang, t'es à frais interurbains, pis nanana, t'sais, y a pas, c'est pas autant qu'en 81. » Fait que, plus rigolo les premiers, celui-là, plus sérieux, mais plus... trip de réalisateur, j'ai envie de dire. Réaliser des réalisations. Il a refait un de ses reportages image par, ben, quasiment image par image en 2024 de son reportage de 94. Fait que ça vaut la peine. Puis il y a des petits clins d'œil également dans le générique. Donc, à voir jusqu'à la fin complètement. On s'arrête là-dessus. Au retour, la conclusion du deuxième service cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Les Hey Babies qu'on vient d'entendre en musique entre le chien et le loup sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Bon, l'annonce tout de suite pour le tout dernier arrivage de M. Night Shyamalan, Piège Trap.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Lady Raven.
Allez, vite, dépêche-toi!
Attends! Le lacet est détaché.
Pas de mauvaise blague, c'est pas le moment. Dépêche-toi.
Je suis désolé. On y est. Lady Raven.
Nos sièges sont malades, papa. Merci. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie.
J'aille aux toilettes. Je peux te laisser seule quelques minutes?
Ouais, ça va aller.
C'est bon? Salut.
Psst. Cooper.
Jimmy,
pourquoi il y a des voitures de police et des caméras partout?
J'ai pas le droit de le dire.
Il se passe quelque chose? Ne me dénoncez pas. Promis. Vous connaissez le boucher? Le cinglé qui enlève des gens et qui les découpe en petits morceaux. Apparemment, la police a entendu dire qu'il serait ici aujourd'hui. Alors elle lui a tendu un piège. Le concert de ce soir, c'est pour l'attraper. Il y a des agents à toutes les sorties. Et ils fouillent tout le monde. On est tous coincés ici. Désolé, Riley, tu peux répéter?
Votre fille n'est pas prête d'oublier cette journée.
C'est quand même fou, non?
Cooper, un homme en apparence, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, amène sa fille au concert de Lady Raven, sa pop star préférée. Mais une fois sur les lieux, le père de famille remarque une présence policière accrue à l'intérieur de l'amphithéâtre, à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai envie de dire, de l'amphithéâtre. De fil en aiguille, Cooper apprend que le spectacle n'est qu'un prétexte pour mettre la main sur le boucher. Il se trouve que Cooper est le dit boucher. Ce dernier doit dès lors manœuvrer discrètement pour trouver une façon de s'échapper aux autorités sans éveiller les soupçons de sa fille. Tout plein de prétextes. Pour les gens qui n'aiment pas le genre de film où le héros ou le anti-héros dans ce cas-ci a toujours une solution, réussit toujours à s'en échapper ou trouve comme par hasard le cintre qui va lui permettre d'ouvrir la porte barrée et ce genre de trucs-là vont haïr ce film-là du début à la fin parce que mon Dieu qui est donc chanceux, le beau Cooper. Josh Arnett qui l'interprète, Hartnett qui l'interprète d'ailleurs, et Saleka Shyamalan, par ailleurs, qui interprète la fameuse Lady Raven, et Monsieur Shyamalan se garde un petit rôle également dans le film. Le bout de concert, le bout où il essaye de sortir, ce bout-là est super intéressant. Ça, c'est les deux tiers du film. Le dernier tiers, il est un peu étrange, il devient un peu bizarre. Et là, ça commence à devenir un peu loufoque d'une certaine manière. Quoique, ça finit... Ben, ça finit bien. On va dire, mais ben, pff, non. Finalement, non. J'y repense, pas vraiment. Mais, tu sais, tout est trop bien placé. Pour ça, c'est pas le meilleur suspense de M. Night Shyamalan. Quoique, justement, pour toute la partie concert, tu sais, vraiment, faut sortir, il inspecte chaque porte, il réussit à parler, encore une fois, aux bonnes personnes qui, eux, ont des pistes, comme le gars qui donne toutes les cues de « Ouais, on est là parce que c'est un setup. » Mais, très drôle d'ailleurs, le personnage en tant que tel. Mais tu sais, t'as l'impression qu'il va... que ça pourrait rester au concert. Tu sais, qu'il réussit à sortir du concert ou non. Ça aurait pu être ça. Tu sais, la proposition est intéressante d'organiser cette espèce de croisement-là entre... Olivia Rodrigo et Lana Del Rey, et Billie Eilish, tout ça mixé ensemble parce que sa fille capote dessus. Fait que tu sais, la proposition est intéressante, tu sais, la bande-annonce est intéressante, mais c'est ça, c'est qu'il y a un dernier tiers à ce film-là qui fait en sorte que ça s'étire quelque peu, quoique seulement 1h45, mais étrangement, gagnerait à peut-être être resserré. Et encore une fois, ben justement, les gens qui n'aiment pas ça, quand justement le héros a toujours tout à portée de main, va haïr complètement ce film-là. Mais c'est intéressant quand même parce que tu restes intrigué de il va-tu réussir, ça va-tu marcher, son plan est-tu sur la bonne route. Fait que, il y a des trucs intéressants. C'est pas complètement raté non plus. Là, on ne peut pas être. Trop cynique non plus. Est-ce que c'est le meilleur de Night Shyamalan? Non, bien sûr que non. Il y a eu beaucoup d'autres meilleurs films que celui-là. Mais la proposition est intéressante. La prémisse est le fun. T'sais, le concert, le faux concert et tout ça. C'est vraiment ce bout-là. Hyper convaincant. Ça fonctionne. On suit la police quand même un peu, mais du point de vue du gars qui est en train de se faire traquer. Fait que, c'est intéressant, ça se rapproche de lui tranquillement. Il réussit toujours à trouver une twist pour se sortir du danger imminent jusqu'à un certain point. Mais voilà, reste que ça vaut la peine de se faire sa propre tête. Évidemment, pas en IMAX. S'il est disponible en IMAX, on y va en présentation ordinaire. Sinon, on attend qu'il sorte à la télévision, à TVA, un dimanche soir. Dimanche soir, suspense, quelque chose du genre. Mais en tant que tel, intéressant. Dans le résultat, ça s'étire un peu sur la fin, malheureusement, mais intéressant. On s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute pour cette 450e fois sur les ondes de CFAQ, 310e fois sur les ondes de Chiz. Merci beaucoup d'être à l'écoute. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition. Au 80.3 à Sherbrooke et au 94.3 à Québec. Restez bien branchés sur vos zones respectives. À la semaine prochaine. Salut.